VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 13 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Ouganda, un deuxième patient meurt d'Ebola, alors que l'OMS annonce la tenue d'une réunion de son comité d'urgence le 14 juin.
Au Cameroun, les autorités établissent à 88 le bilan de l'attaque de Boko Haram dimanche contre Darak dans l'extrême nord.
Le Mali demande une présence accrue de casques bleus dans le centre du pays après la récente violence interethnique dans cette région.
Washington nomme un émissaire spécial pour le Soudan où les contestataires veulent des garanties avant tout accord avec les militaires au pouvoir.
Tension dans le Golfe, le premier ministre japonais Shinzo Abe en visite à Téhéran appelle l'Iran à jouer un rôle constructif.
Le président américain Donald Trump ne verrait pas d'inconvénient à accepter des informations venues de l'étranger sur son ou sa rivale à la présidentielle de 2020.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le virus Ebola a tué une deuxième personne dans l'ouest de l'Ouganda, a-t-on appris jeudi auprès d'une source sanitaire qui précise que la victime est la grand-mère d'un enfant de 5 ans décédé dans la nuit de mardi et mercredi des suites de cette maladie. Un deuxième patient atteint d'Ebola qui se trouvait dans l'unité de mise en quarantaine est décédé hier soir, a déclaré à l'AFP un responsable du ministère ougandais de la Santé sous couvert d'anonymat. La personne décédée est la grand-mère du garçon de 5 ans qui est décédé. Et l'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier la tenue demain d'une réunion de son comité d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et qui s'est donc étendue à l'Ouganda voisine. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce sera la troisième réunion du comité d'urgence de l'OMS depuis le début de l'épidémie en août dernier. Le comité se réunit pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a indiqué l'OMS. La décision finale reviendra au directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'épidémie a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la RDC. Le pays n'a pas encore réussi à enrayer l'épidémie à cause des attaques de milices ou de l'hostilité de la population vis-à-vis des centres de soins. Ainsi, de nouveaux cas ont été enregistrés en Ouganda, où le virus a tué un garçon de 5 ans. Deux membres de sa famille ont été mis en quarantaine, d'après la ministre ougandaise de la Santé. Depuis 1976, c'est la dixième épidémie en RDC. Plus de 2000 cas ont été enregistrés, dont les deux tiers sont morts. En Afrique de l'Ouest, en 2014, le virus Ebola avait fait quelques 11 000 morts.
Et le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, revient sur les circonstances de la mort de l'enfant tué par Ebola en Ouganda et les mesures de précaution qui ont été prises.
C'est un enfant de 5 ans dont la maman est congolaise, le père est ougandais. C'est une famille qui vit en Ouganda, qui était venue en RDC au chevet du père de la maman. Le père est décédé d'Ebola le 27 mai. Certains membres de la famille ont traversé en Ouganda. Dès qu'ils ont traversé en Ouganda, nous avons contacté les autorités ougandaises en leur transmettant. Du côté de l'Ouganda, ils ont fait donc une investigation approfondie. Ils ont identifié 8 personnes qui étaient en contact avec cette famille. Et les autorités ougandaises, à partir de ce vendredi, vont vacciner les 8 contacts, tous ces contacts des contacts, ainsi que s'assurer que tous les professionnels de la santé dans les districts sont vaccinés.
RDC toujours, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, dit qu'il y a eu panique à Machu Picchu, au quartier Gécamine, où des tirs ont été entendus jusque tard dans la nuit hier. Selon lui, la police a tenté de contenir les militants de l'UDPS en colère suite à la mort d'un motard, membre de ce parti qui, disent-ils, a été tué par un groupe de militants PPRD.
Au Cameroun, le gouvernement a annoncé hier soir que le bilan de l'attaque des combattants de Boko Haram contre la localité de Darak dans l'extrême nord s'établit à 88 morts. Ce bilan a été rendu public 72 heures après de violents combats de Yaoundé, correspondance d'Emmanuel Juntap.
16 militaires camerounais ont été tués dans la localité de Darak, une île située à proximité du lac Tchad, au cours d'une attaque des combattants de Boko Haram, a annoncé hier Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. L'attaque a été menée par plus de 300 combattants lourdement armés dans la nuit de dimanche à lundi dernier, a précisé le communiqué du ministre. Selon lui, 6 civils camerounais ont été tués, 64 combattants de Boko Haram abattus, 8 capturés. Plusieurs blessés et en fuite. L'armée camerounaise a livré des violents combats pendant plusieurs heures. Elle a dû faire appel à des renforts d'éléments déployés dans le cadre du secteur 1 de la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad pour riposter à cette attaque. 8 soldats camerounais ont été blessés, selon le ministre de la Défense, qui assure que les forces de défense ont repris le contrôle de la zone. Depuis 2015, le Cameroun lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord avec l'appui des comités de vigilance. De nombreuses localités de la région ont été vidées de leurs habitants et l'économie locale fragilisée dans cette partie du Cameroun à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Et puis le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, est arrivé hier à Khartoum en compagnie de l'ex-diplomate Donald Booth, nommé émissaire spécial des États-Unis pour le Soudan, afin d'aider à trouver une solution pacifique à la crise. Pour sa part, le mouvement de contestation exige des garanties internationales avant de mettre en œuvre tout accord avec les généraux au pouvoir. À Khartoum, magasins et restaurants ont commencé à rouvrir mercredi après la décision des contestataires de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après une répression meurtrière afin de donner une chance à une reprise des pourparlers.
En Algérie, l'ancien premier ministre Ahmed Ouyahia, proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été placé hier en détention provisoire à l'issue de son audition par un juge d'instruction, a annoncé la télévision nationale. Elle n'a pas donné de détails sur les faits qui sont reprochés à Ahmed Ouyahia. Le point avec Eric Manirakidza.
Ahmed Ouyahia a été écroué à la prison d'El Haraj dans la banlieue d'Alger, selon la télévision nationale. Âgé de 66 ans, il a été 4 fois premier ministre, dont 3 sous la présidence de M. Bouteflika. Nommé la dernière fois en 2017, il a été limogé en mars dernier pour avoir tenté sans succès d'apaiser la contestation. Ancien chef de cabinet du président Bouteflika, il a comparu hier devant un juge d'instruction de la Cour suprême. D'après le parquet d'Alger, les dossiers de 12 ans anciens ministres et préfets ont été transmis fin mai à la Cour suprême dans le cadre des enquêtes visant Ali Haddad, ancien patron des patrons, pour des faits présumés de corruption. Le parquet d'Alger a aussi indiqué avoir transmis à la Cour suprême les dossiers dont 11 autres responsables dans l'enquête sur un autre homme d'affaires influent, Mahiedine Tarkout, placé en détention provisoire pour des faits présumés de corruption et de blanchiment.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il ne refuserait pas des informations fournies par un pays étranger et visant à nuire à son ou à sa rivale lors de la présidentielle de 2020. À la question d'un journaliste de la chaîne ABC qui voulait savoir si son équipe de campagne accepterait de telles informations venues de la Russie ou de la Chine, ou les transmettrait au FBI, M. Trump a répondu « Je pense que vous faites peut-être les deux. Il n'y a rien de mal à écouter », a-t-il estimé, en mentionnant par exemple la Norvège.
Le président américain était initialement interrogé sur le cas de son fils aîné, Donald Trump Jr., qui, pendant la campagne présidentielle de 2016, avait participé à une réunion à la Trump Tower de New York avec des personnes qu'il pensait mandatées par Moscou et qui lui avaient promis des informations compromettantes sur la candidate démocrate Hillary Clinton. À nouveau entendu mercredi par le Sénat, Donald Trump Jr. a déclaré en avoir fini avec l'enquête de la commission du renseignement. Les précisions d'Irene Herman Ungbo.
Je suis heureux que ce soit enfin terminé. Nous avons pu clarifier les choses, a déclaré Donald Trump Jr. après un peu moins de 3 heures d'audition à huis clos devant la commission du renseignement. Il a déjà été entendu pendant de longues heures par différentes commissions sénatoriales en 2017. Le président Donald Trump s'était dit très surpris en mai par la nouvelle convocation de son fils par cette commission du Sénat contrôlée par les Républicains. Les sénateurs voulaient revenir sur certaines de ses déclarations qui auraient pu contredire d'autres témoignages.
témoignage.
Ils l'ont questionné sur une réunion avec une avocate russe à la Trump Tower de New York en juin 2016, en pleine campagne présidentielle. Selon la presse américaine, les sénateurs voulaient aussi l'interroger sur un projet de construction d'une Trump Tower à Moscou pour comparer ses affirmations à celles de Michael Cohen.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a affirmé mercredi à Téhéran la volonté de son pays de jouer un rôle important pour apaiser les tensions entre l'Iran et les États-Unis, tout en appelant la République islamique à jouer un rôle constructif au Moyen-Orient.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour la saison 2020-2021, le Ghana et la Côte d'Ivoire vont arrêter les ventes du cacao qui doit être récolté à partir d'octobre prochain, dans l'attente d'un accord avec les industriels sur un prix minimum garanti aux producteurs. Ce prix commun vise notamment à réduire les disparités de revenus qui règnent le long de la chaîne de valeur du cacao. Selon l'agence Bloomberg, les deux pays envisagent de fixer un tarif plancher de 2 600 $ la tonne de cacao pour compenser le manque à gagner des producteurs. L'Union européenne annonce un financement de 152 millions d'euros en faveur de 7 pays du Sahel pour venir en aide aux populations défavorisées, victimes des conflits armés et du changement climatique. Il devrait leur fournir une aide alimentaire, des soins de santé d'urgence, de l'eau potable, un abri, une protection et une éducation pour les enfants. Le Nigeria recevra près de 28 millions d'euros, le Tchad 27,2 millions d'euros, le Mali 23,55 millions d'euros et le Niger 23,15 millions d'euros. Le Cameroun devrait bénéficier de 17,8 millions d'euros, le Burkina Faso de 15,7 millions d'euros et la Mauritanie de 11,15 millions d'euros. Terminons avec la Sonatrach, société publique algérienne des hydrocarbures, qui a signé un accord avec le Portugais Galp pour prolonger ses exportations de gaz vers le Portugal de 10 ans supplémentaires. Sonatrach expédiera 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an vers ce pays.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial féminin France 2019, le Nigeria s'est relancé.
Oui, les Super Falcons ont remporté leur deuxième match face à la Corée du Sud hier, 2-0. Doyen Kim a permis au Nigérian d'ouvrir le score en première période en marquant contre son camp. En deuxième partie, la Corée du Sud a cru un instant avoir reculé au score grâce à une frappe victorieuse de Gaemin Lee, mais le but a été refusé pour cause de hors-jeu. Et ce sont bien les Nigérians qui ont finalement réussi à asseoir leur emprise grâce à un beau but d'Assisa Oshoala. Avec cette victoire, la meilleure nation africaine respire un peu mieux, malgré sa défaite inaugurale face à la Norvège 3-0. Avec 3 points, elle peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.
Youssef Msakni, de retour parmi les Aigles de Carthage.
L'attaquant vedette de la sélection tunisienne, forfait sur blessure au Mondial, est de retour dans la liste des 23 retenus pour la CAN. En revanche, le défenseur d'Al-Ahly, Ali Maloul, a été remplacé dans le groupe par le milieu Karim Awadi. Youssef Msakni, milieu de peine, jouera aux côtés du capitaine de Montpellier, Elias Skiri, et des attaquants de Saint-Etienne, Wabi Kazri, et de Nice, Bassem Asrafi. Le technicien français Alain Girès a sélectionné 12 joueurs évoluant à l'étranger, mais la plupart sont déjà soudés par un parcours commun en Coupe du Monde en Russie, où ils ont été éliminés après 2 défaites. Les Aigles débuteront la compétition le 24 juin face à l'Angola.
Le sélectionneur des Lions de la Teranga a aussi tranché.
Oui, Aliou Cissé a pris les 23 joueurs qui, selon lui, portent le costume de favori. Ils étaient au départ 25 avant le dernier match amical joué, remporté 7-0 face à Mercy. Les deux derniers noms supprimés de la liste par le technicien sénégalais sont Sidi Sarr, milieu de terrain de Châteauroux, et l'attaquant de Nantes prêté à Nancy, Santin Gomme. C'est avec cette liste définitive qu'Aliou Cissé va continuer les préparatifs dans la ville d'Alicante, en Espagne. Le Sénégal croisera un match amical le Nigeria le 16 juin. Les Lions de la Teranga sont annoncés comme favori à cette CAN Égypte 2019 et ils affichent clairement leur ambition, comme le dit l'attaquant sénégalais de Rennes, Mbaye Niang.
Très clairement, l'objectif, voilà, c'est de la remporter, parce qu'on a un groupe, on a les joueurs et une génération aussi pour pouvoir la remporter. Maintenant, on sait que ça va pas être facile. Il va y avoir des équipes qui vont vouloir aussi la gagner. Maintenant, ça sera à nous de mettre les bons ingrédients pour pouvoir réaliser quelque chose que le pays attend depuis, comme Ramil disait, depuis maintenant bien longtemps.
Cyclisme, Chris Froome doit renoncer au Tour de France.
Le Britannique souffre de plusieurs fractures au fémur et au coude droit ainsi qu'aux côtes. Chris Froome a chuté hier lors de la reconnaissance du parcours des 26 km du contre-la-montre du Dauphiné en France. Il a été déséquilibré par une rafale de vent alors qu'il se mouchait et a percuté un muret. Le quadruple vainqueur du Tour est forfait pour la grande boucle. À 34 ans, il est sous contrat avec son équipe jusqu'à fin 2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydou Dia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la tuerie dimanche soir dans les villages Dogon de Sobane, dans le centre du pays, a fait 35 morts selon un dernier bilan avancé par le gouvernement. Auparavant, les responsables locaux avaient annoncé près de 100 morts. Idriss Fall a recueilli la réaction de Marie-Evelyne Barry, directrice d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, basée à Dakar.
Tout d'abord, cette spirale de violence qui, à chaque fois, fait plus de morts. Que des enfants puissent aller à l'école, que des communautés entières ne puissent plus survivre à leurs besoins, qui est essentiellement inquiétant dans ces massacres, c'est qu'ils restent impunis. Les autorités ne prennent pas leurs responsabilités pour faire des enquêtes, pour arrêter les coupables et pour arrêter cette spirale qui ne va pas finir. Tant que l'impunité continue, la violence va continuer. D'autre part, Amnesty pense que le mandat de la MINUSMA devrait être renouvelé, mais avec un mandat axé spécifiquement, un, sur la protection des civils, deux, sur la gestion de l'impunité et trois, sur un système de justice transitionnelle qui va permettre que ces choses-là s'arrêtent, que la population puisse entrer dans un processus de réconciliation et que surtout, il n'y ait pas de protocole d'entente qui vont générer des lois d'amnistie et perpétuer l'impunité.
Est-ce que le gouvernement malien a les moyens? Parce qu'il y a eu un massacre à Ouagadougou, on parlait de 160 morts, il y a eu un autre massacre le 1er janvier, il n'y a jamais eu une seule arrestation.
La question des arrestations n'est pas juste une question de moyens. Il y a une mission des Nations Unies avec d'énormes moyens qui pourraient mettre la priorité sur la protection des civils. La deuxième chose, le gouvernement malien est tellement appuyé pour pouvoir gérer les questions de justice, pour pouvoir gérer les questions de justice transitionnelle. Les questions de massacre devraient être les questions prioritaires à gérer. Et si les questions d'impunité sont des questions qui sont gérées prioritairement, on va assister à une courbe inversée de la violence. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté politique, tant nationale qu'internationale, au niveau de la responsabilité de ceux qui sont les garants des droits humains, la situation va empirer. Et ce qui nous inquiète, c'est que ça empire de manière exponentielle, dans l'indifférence totale, et le fait que les populations ne puissent plus avoir accès à leurs sources de revenus, que les enfants ne puissent plus avoir accès à l'école, qu'on tue des femmes et des enfants impunément, ça va générer d'autres troubles. Et donc il est absolument crucial que l'impunité s'arrête, qu'un système de justice transitionnelle axé sur la fin de l'impunité et la réconciliation ait lieu et qu'on travaille à aider les populations à avoir de nouveau accès à leurs droits pour enrayer ces situations de violence.
Marie-Evelyne Barry, directrice d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, jointe à Dakar. Ajoutons que le Mali a demandé aux côtés de ses forces de défense et de sécurité une présence accrue de casques bleus dans le centre du pays. Le ministre malien des Affaires étrangères, Thiébilé Dramé, a déclaré hier au Conseil de sécurité que c'est pour, je cite, « contribuer à protéger les populations civiles et leurs biens afin de mettre un terme au cycle de la violence pour permettre le retour de l'administration et des services sociaux de base ». Fin de citation.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le cycle d'atrocités entre communautés antagonistes au Mali après une attaque meurtrière attribuée par certains survivants à une milice Peul dans un village d'Ougon.
Pour le président malien, la survie du pays est en jeu. Comment expliquer de tels carnages? Les groupes djihadistes ont-ils exacerbé ce conflit dit communautaire? Le gouvernement de Bamako a-t-il un plan clair pour enrayer ces affrontements? La pluie des troupes étrangères n'est-il pas assez efficace? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Tchad, les caciques du parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, demandent à la représentation diplomatique américaine de ne pas s'immiscer dans la politique intérieure du pays. Le 7 juin dernier, l'ambassade des États-Unis au Tchad avait demandé aux autorités tchadiennes de garantir la liberté d'association et de permettre à tous les citoyens de participer à la vie politique. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Il faut avoir des ordres de l'étranger pour que notre président fondateur mette la machine en marche pour que ses partis politiques soient agréés ou pas agréés. Ça, ce n'est pas utilisé.
Mohamed Zen Bada, secrétaire général du MPS parti au pouvoir, il s'en est pris à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad alors qu'elle soutient l'intention des autorités de N'Djamena d'aller vite aux élections législatives dont l'échéance remonte à 2015. Selon la représentation diplomatique américaine, ce processus ne sera crédible que lorsque le gouvernement respecte les droits des citoyens de se rassembler, même si le but est d'inciter a voté contre le parti au pouvoir et donne l'autorisation sans délai aux partis politiques qui répondent aux critères légalement établis. Le cas du parti Les Transformateurs de Dr. Succès Masra qui défraie la chronique. Pour Mohamed Zen Bada, sa formation politique ne permettra à personne de lui donner de leçons de gouvernance.
Le Tchad est un pays souverain. Nous portons ici sur notre flambeau mourir pour le salut. Comme à l'époque, les hommes et les femmes se sont levés pour mourir pour la cause de la démocratie. Aujourd'hui encore, ces hommes et ces femmes sont là. Les élections ne sont pas dictées de l'extérieur.
Le coordonnateur de la CACIDO, une coalition de la société civile proche du pouvoir, Mohamed Digandibaï, qualifie la position de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad d'une ingérence qui remet en cause les institutions de la République.
La CACIDO dit non à tout dictat d'une leçon de démocratie qui émanerait d'un État, aussi puissant soit-il. Nous disons aussi non à l'organisation des élections sous l'épée de Damoclès d'une puissance quelconque.
Pour Max Kamkoï, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, il est inadmissible et même ridicule que le parti au pouvoir parle d'une ingérence dans cette situation.
En matière de valeurs universelles, les frontières plient face aux valeurs universelles. Et la démocratie fait partie de ces valeurs parce que c'est un bien commun. Pour toute autre chose, on parlait d'une ingérence. Quand le gouvernement français, à travers ses mirages, sont venus violer notre espace aérien, opérer des bombardements pour tuer les Tchadiens ici. Mais si on met la Convention de Vienne et la Charte des Nations Unies, et c'est là où on trouve évidemment que ce sont des ingérences.
Docteur Ivaris Garlom Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, estime pour sa part que les caciques du MPS font de la gesticulation inutile.
Si on estime que l'ambassadeur a mal agi, ils n'ont qu'à le déclarer persona non grata. On ne peut pas comprendre que c'est des tirs groupés subitement sur l'ambassade des États-Unis de toutes parts, et ce sont les proches du régime. Ils se disent démocrates, mais la démocratie c'est d'abord respecter les moindres règles de la démocratie. Je crois que le président français qui a donné même une date de mai et qui est aujourd'hui caduque, il doit regretter ce qu'il a dit.
André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Nigeria a célébré ce 12 juin pour la première fois la journée de la démocratie. Il y a eu des débats intenses sur la meilleure façon de se souvenir de la jeune démocratie nigériane depuis que l'armée a quitté le pouvoir le 29 mai 1999, un tournant dans l'histoire du pays. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le 29 mai a toujours marqué la journée de la démocratie pour commémorer la date à laquelle l'armée a rendu le pouvoir aux civils en 1999. En juin 2018, le gouvernement nigérien a rendu hommage au regretté chef M.K. Abiola, présumé vainqueur de l'élection présidentielle annulée du 12 juin 1993. Alors, le président Muhammadu Buhari a décidé que 12 juin sera célébré comme la journée de la démocratie. Ainsi, pour la première fois, cette journée est célébrée au Nigeria. Il y a eu une impressionnante parade militaire. Les pas de danse du pays profond. Le militant Idriss Abdul a été arrêté le 12 juin 1993 en compagnie d'autres personnes. C'est une date inoubliable pour lui.
C'est une journée très importante. J'ai été une victime moi-même. J'ai été arrêté. Le fait que depuis 1993, cette journée a été finalement reconnue par le gouvernement fédéral et par un ancien dirigeant militaire et ancien soldat, je pense que c'est très important pour nous. Il s'agit de se rappeler, il s'agit d'une évaluation de notre passé.
Bako Abdoulahie, avocat et professeur à l'université d'Abuja.
Ils sont en train d'essayer de corriger l'injustice qui a été faite durant l'élection de 1993. Une élection qui a été considérée par les Nigérians comme libre et transparente. Mais les dirigeants élus n'ont jamais pu gérer les affaires du pays.
Le président Muhammadu Buhari, qui a déjà prêté serment, commence ainsi un second mandat.
Over the next 4 years. We are committed.
Pour les prochaines 4 années, nous sommes déterminés à mettre en place une forte équipe de Nigériens et alliés pour exécuter notre programme de transformation et de proposition.
La journée de la démocratie marque aussi 20 ans de démocratie. Plusieurs chefs d'État africains parmi eux, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Paul Kagame du Rwanda et Mamadou Youssoufou du Niger ont pris part aux festivités. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, nous revenons sur la lutte contre le trafic des enfants, notamment au Bénin, où les signaux sont toujours au rouge malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées depuis l'entrée en vigueur de la Charte sur la protection des droits de l'enfant. Le gouvernement se fait ainsi aider par plusieurs organisations et centres de secours. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La condamnation au Gabon en avril dernier d'une béninoise à 10 ans de prison ferme pour trafic d'enfants remet sur le tapis ce sujet sensible. Le centre de référence au Bénin qui recueille les enfants abusés et exploités est tenu par des religieuses, les salésiennes de Don Bosco. Sœur Marie Antonietta est au Bénin depuis 1992.
Dans notre projet, on avait écrit « Humaniser le métier des vidomégons », sont ces filles, non ? C'est-à-dire faire en façon qu'elles puissent découvrir qu'elles sont des personnes humaines, qu'elles peuvent faire autre chose. Et après, petit à petit, les aider à choisir quelque chose.
Des dizaines d'enfants franchissent la porte de la Maison de l'Espérance, les sœurs salésiennes. Parmi eux, Natacha, elle avait moins de 10 ans quand elle est venue pour fuir les mauvais traitements d'une dame à qui elle a été confiée. Aujourd'hui âgée de 20 ans et attend les résultats du baccalauréat.
Elle m'a placée au premier lieu. Je suis partie de chez la dame. De chez la dame, on est rentrée. J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. En tout cas, des placements sur placements chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Je lui ai dit non, que j'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et qu'elle partait, moi, je devais subir le coup, que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie.
Ils sont nombreux, ces enfants béninois, qui, à l'image de Natacha, sont confiés à des ménages contre rémunération à leurs parents. Certains enfants sont envoyés au Togo, au Niger, au Gabon. Des associations travaillent pour freiner le phénomène. C'est le cas de l'ONG Enfants de Demain qui travaille dans les zones reculées du Bénin pour freiner le trafic transfrontalier. Pour Ernest Cachon, le chargé des programmes de cette ONG, la tâche est hyper difficile, surtout dans les communes reculées.
Au départ, la population était résistante. Qui n'a pas de traite dans la commune? Mais à force de donner la définition de la traite, de donner un peu les manifestations, la conséquence de la traite, ils ont compris. Nous avons pu récupérer 23 enfants victimes de la traite ou des enfants à risque puceux. Nous avons mené des actions curatives, mais aussi des actions à titre préventif.
Selon l'UNICEF, le taux des enfants exploités pour différentes tâches a franchi la barre des 52% et cela a connu une montée malgré la gratuité de l'école comme moyen pour repousser le phénomène. Pour Sœur Marie Antonietta, il faut qu'en plus de la sensibilisation, la répression commence pour que les enfants cessent de souffrir inutilement.
Le Bénin a signé la Convention des droits des enfants. Il y a la loi qui interdit le travail des mineurs de 14 ans. Et après, l'école serait obligatoire, en principe. Mais si les lois sont pas, s'il n'y a pas une sanction, les gens, c'est ça.
En attendant l'éradication du phénomène au Bénin, des enfants privés d'école passent des journées entières dans les marchés et autres lieux de commerce et sont livrés en permanence à tous les dangers et toutes sortes d'abus. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.